zazen, le fait de se concentrer sur la posture du corps et d'être attentif à la respiration nous ramène constamment à l'ici et maintenant. De la pratique à l'ici et maintenant de notre vie. Ici, sur ce zafu, dans cette posture, avec ce corps. Maintenant, dans cette inspiration, lorsque nous inspirons, dans cette expiration, lorsque nous expirons. Dire, il n'y a pas d'autre vie qu'une vie ici et maintenant. Pratiquer ainsi revient à nous ramener à la réalité de notre vie, ici et maintenant. Car même si ici et maintenant je pense à ailleurs, avant ou après, c'est toujours ici et maintenant que cela se passe. Il n'y a pas d'autre lieu ni d'autre moment pour s'éveiller qu'ici et maintenant. Maître Menzan, dans son Jijyu Zanmai, insiste sur le fait que Zazen n'est pas une technique graduelle, comme le sont les quatre étapes de dhyana du bouddhisme indien. Ces quatre étapes de dhyana ont été enseignées par le Bouddha. Donc cela pose évidemment question. Je crois que ces quatre étapes de dhyana ont été enseignées ainsi par Shakyamuni, pour des raisons pédagogiques appropriées à la mentalité indienne. C'est une mentalité très analytique qui aime les classements. Alors que la mentalité chinoise est une mentalité beaucoup plus intuitive et en même temps très pragmatique. Et si on étudie les quatre étapes de dhyana, on se rend compte que à chaque étape, le pratiquant lâche prise avec une certaine catégorie d'attachement. Dans la première étape, il s'agit de commencer par lâcher prise avec les soucis de la vie quotidienne, les pensées qui se prolongent durant le zazen à partir de ce que l'on a vécu dans le quotidien. Que comme des vagues qui continuent à s'agiter même lorsque le vent a cessé. Donc dans un premier temps, il s'agit de prendre conscience de cela et de les abandonner. Ensuite, on est supposé être débarrassé de cette agitation quotidienne. Mais là subsiste une activité intellectuelle, une certaine pensée analytique que l'on peut souhaiter associer à la méditation. C'est des gens qui feraient zazen en réfléchissant au sens de leur pratique, par exemple. Ou qui s'efforcerait d'observer analytiquement les cinq agrégats de leur ego pour se convaincre qu'il n'y a pas d'ego substantiel. Même cette pensée analytique, le Bouddha recommande de l'abandonner, ainsi que tous les objets de pensée relatifs à cette analyse. Puis il y a tout le domaine émotionnel. Même si on a abandonné les préoccupations quotidiennes et la réflexion intellectuelle, il reste les émotions. Il peut y avoir de la colère, de la tristesse, des regrets qui nous submergent durant la pratique de zazen. Ces émotions doivent être vues et abandonnées, elles aussi. Mais du fait de cette suite de lâcher prise, un sentiment de joie profonde s'établit. Cette joie profonde peut devenir à son tour un objet d'attachement. Donc dans une quatrième étape, troisième ou quatrième, cette joie doit être également abandonnée. On ne doit pas vouloir y demeurer, la conserver. Et finalement, ayant abandonné toutes les préoccupations, toute l'activité intellectuelle et les émotions, y compris les émotions subtiles et spirituelles telles que la joie, il reste juste une grande équanimité. Cette équanimité permet de réaliser l'éveil. Mais l'éveil ne doit pas être réduit à cette équanimité. Car cette équanimité elle-même est conditionnée. Et donc impermanente, comme tous les états que l'on rencontre dans la vie ou dans le zazen. Et même si l'on poursuit la méditation dans le domaine du sans-forme, méditation sur l'espace infini, la conscience infinie, sur la vacuité. Toutes ces méditations du monde du sans forme restent encore conditionnées. C'est-à-dire qu'on y entre et qu'au bout d'un temps, on en ressort. Tout cela étant parfaitement impermanent. Car lié à des causes et des conditions. Donc, tout en enseignant ces techniques de méditation, très inspirées du yoga, c'est-à-dire de pratiques graduelles, Bouddha a mis en garde ses disciples contre le fait de confondre cela avec le véritable éveil. Cela crée des conditions favorables à l'éveil. On peut dire même que chaque lâcher-prise est une forme d'éveil. Mais le grand lâcher-prise que Dogen appelait Shijin Datsuraku, que Menzan considère comme le véritable éveil du Bouddha, c'est de tout lâcher instantanément. C'est-à-dire abandonner cette démarche d'esprit de vouloir obtenir quelque chose au moyen d'une technique, aussi subtile, profonde que soit la technique. C'est réaliser immédiatement la vacuité de l'ego et de tous ces objets mentaux. Par conséquent, même une pratique graduelle ne veut au fond rien dire, car elle suppose qu'il y a un ego qui accumule des mérites, ou qui franchit des étapes d'une manière irréversible. Et donc qui atteint un état supposé permanent. Il faudrait que cet état soit inconditionné, ce qui n'est pas le cas. Donc aucun état réalisé n'est permanent. Et cette impermanence elle-même, est-ce que Dogen a réalisé comme étant au fond la véritable nature de Bouddha ? Signifie que tout ce que nous pouvons vivre est conditionné. Car tout ce que nous vivons est vécu dans l'interdépendance. Dans d'infinies relations d'interdépendance avec tout l'univers. Passé, présent et avenir. Et donc, il n'y a rien sur quoi demeurer. Et le véritable esprit éveillé est l'esprit qui ne demeure sur rien, même pas sur sa compréhension, même pas sur le satori. C'est ce que Dogen aussi appelait la porte du dharma, au-delà même de Bouddha. Ne pas même s'attacher à Bouddha. Ne pas s'attacher au Satori. Aller constamment au-delà du par-delà de cette tendance de l'ego à vouloir demeurer sur quelque chose qu'il croit avoir saisi. Alors il y a une véritable harmonie immédiate avec le dharma, avec l'ordre cosmique. C'est ce que Shakyamuni Bouddha a réalisé dans son éveil. Et cet éveil s'est produit, non pas progressivement, mais dans un instant. Dans un ici et maintenant, à l'aube, en voyant l'étoile du matin. Par la suite, pour transmettre son éveil, Shakyamuni Bouddha a utilisé toutes sortes de moyens pédagogiques. En particulier des exercices, des techniques progressives adaptées à la mentalité des Indiens qui venaient le questionner. Et toutes ces techniques sont bien sûr extrêmement fructueuses, mais elles ne constituent pas l'essence de l'éveil de Bouddha. Même d'ailleurs l'a souvent répété lorsqu'il enseignait les différents samadhis, différentes techniques de concentration. Il a toujours rappelé que toutes ces techniques étaient conditionnées. Et qu'il ne fallait pas les confondre avec la véritable libération. Or, Bouddha n'a voulu finalement enseigner qu'une seule chose, la libération de toutes les causes de la souffrance, c'est-à-dire de tous nos attachements. Principalement de notre attachement à notre ego, qui risquerait de se trouver même renforcé si l'on commençait à se dire maintenant j'ai atteint telle étape de dhyana. Maintenant, j'ai obtenu tel état particulier, franchi telle étape. Donc, ce que nous avons à faire, à pratiquer, c'est revenir constamment à ce qui se passe ici et maintenant. En nous et dans notre interdépendance avec notre environnement. En voir l'impermanence et l'absence de substance et lâcher prise. Et ainsi réaliser un esprit fluide, sans coagulation mentale, ouvert à l'ouvert, ouvert intérieurement à ce qui est tout le temps ouvert. Parce qu'il ne se laisse pas saisir, parce qu'il n'a pas de limite. C'est ce sens de la pratique que tous les maîtres zen se sont efforcés de protéger. Quitte parfois à paraître critiquer l'enseignement traditionnel du bouddhisme. Mais en fait, il s'agit de revenir à la source de tous les enseignements et de ne voir les enseignements que comme des moyens habiles, des upayas, donc des techniques provisoires utile, mais qu'il ne faut pas confondre avec le véritable éveil.